On va terminer par une petite table ronde, une discussion, quoi, la discussion qu'on n'a pas eue tout à l'heure, donc on va la poursuivre maintenant. Alors c'est vrai que l'effet couloir est intéressant, mais il y a eu de la perte. Donc c'était, voilà, bon, les gens avaient autre chose à faire. Donc l'idée c'est de reprendre une discussion très ouverte à la fois à partir des interventions qui ont eu les exposés de tout à l'heure. Donc je dois excuser Bernadette Kessler qui doit partir, elle devait reprendre le train maintenant, ouais. Voilà, donc voilà. Bon, ça ne nous empêche pas de continuer. Donc, on avait discuté un petit peu dans la préparation de la table ronde. L'idée, c'est de se poser un peu deux questions. Soit. Quel modèle économique au sens large, hein, on a vu tout à l'heure que ça ne se réduit pas seulement au champ marchand, pour le développement des territoires au travers de l'open data, des applications, mais pas seulement des applications. On voit bien que ça peut être plus large que la simple application smartphone ou autre. Et la problématique, on l'a vu aussi dans la fin des exposés de Bernadette et d'Amandine sur la question de la culture de la donnée, l'éducation à la donnée, qui sont des choses importantes et on ne fera pas sans quoi, des gens. Voilà, donc des questions, des remarques, des interventions à l'estrade, c'est ouvert. Bon, voilà, oui, donc la discussion aussi, c'était de tirer parti des présentations et des exposés pour reprendre la discussion. Donc, tu n'avais pas fini, bon, je te laisse la parole.
Juste sur les données de... Sandrine, tout à l'heure, tu avais parlé du fait de signer, dans les contrats de délégation de services publics, de signer des clauses pour permettre le partage. Effectivement, c'est juste indispensable parce qu'en fait, j'ai un exemple là qui est récent. Alors, je n'ai pas creusé, hein, donc je dis peut-être des bêtises sur la disponibilité des données, mais je ne pense pas. Au niveau des transports, Poitiers a changé sa ligne de transport. Vitalis a changé sa ligne de transport en septembre. Ce n'est pas bouleversé avec que des nouvelles lignes de transport. Et c'est là où c'est un peu la chose difficile, c'est que moi je contribue à OpenStreetMap, dans lequel on va mettre dessus les arrêts de bus, les lignes de transport et tout ça. Et en fait, on se retrouve avec des données qui ne sont pas disponibles en open data.
On les nettoie. Parce que j'ai fait du nettoyage. Tu auras le GTF dans pas longtemps, je te le promets. Avant la libération officielle, la troisième libération.
Bon, je finis quand même. Merci. Déjà, merci. Oh, tant qu'on l'a. Et donc, oui, donc la difficulté, en fait, c'est quand c'est comme ça, c'est quand il y a des choses qui impactent vraiment fortement le public, mais qu'on n'a pas les données ouvertes. Je sais qu'au niveau cartographie, il faudrait quasiment se retaper à prendre toutes les lignes de bus de tous les horaires pour aller prendre tous les arrêts de bus et voir toutes les lignes. C'est un peu fastidieux. Super. Merci.
Attends-le là. Ça va être imminent.
Il est rassuré. Une autre remarque ? Bon. Vous êtes achalé, comme on dit ici.
Non, mais l'idée c'était aussi que voilà, les acteurs que vous exprimiez. Parce que là, on en a parlé déjà.
Bonjour. Moi, ma remarque, c'est par rapport aux compétences sur le territoire. Je trouve qu'on manque de certaines compétences, notamment statisticiens, designers de services, des gens un peu créatifs, des trucs. On essaye de mettre en place, donc, comme vous le savez, les infolabs, etc. Et c'est vrai que souvent, on est confronté au truc où, derrière, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Et je voulais savoir, mais il n'y a personne de l'université ici. Hein. Si à un moment donné, il y aurait un master ou je sais pas quoi, qui est data scientist, dans lequel il brasse tout, la data vise, la statistique, c'est une question peut-être bête, hein, mais moi en tout cas je cherche à me former en ce moment, je galère pas mal, ça n'existe pas, et je me dis peut-être que ça serait vachement bien de pouvoir commencer.
On va poser à Jean-François Cerisier.
Ouais, bah, je vais lui en parler. Ouais. Attends.
Je voulais faire le rôle. Bah voilà, tu vois. On va aller chercher les ressources ailleurs.
Il y a, me semble-t-il, à vérifier, parce que c'est une information qui date un peu maintenant, mais il y avait à Niort un département de l'IUT spécialisé sur le traitement statistique des données, avec les logiciels du marché, Office, etc., etc. Et c'est vraiment des super pros, parce que non seulement ils manipulaient comme des bêtes les ordi et les logiciels, mais surtout, ils étaient de formation matheuse, et ils allaient chercher dans les coins tout ce que les logiciels pouvaient faire, notamment comment est-ce qu'on peut simuler des données qui n'existent pas quand on a des matrices et que le logiciel permet de prédire des choses. Donc vraiment, c'était des bons. Alors, ils ont sans doute dû évoluer parce que la maîtrise des données, c'était un truc très fort pour les mutuelles et que je pense qu'ils ont dû s'ouvrir des nouveaux marchés. Donc, il faut vérifier comment a évolué la formation. Elles ont toutes évolué. Mais bon, moi, je les connaissais il y a une dizaine d'années. Ils étaient super performants et je pense que c'est sur l'université ce qui peut être le plus proche de la question que vous venez de poser directement là.
Ouais, alors moi la question c'était ça, c'est bien en anglais aussi la phrase
du micro. Bonjour. Rebonjour. Non, c'était oui, alors ça je merci de l'info, mais Lisa Bataille d'ailleurs a voulu me le dire, mais bon, tu me le diras après. C'est la partie un peu intermédiaire, c'est-à-dire que on a dans les Fab Labs les mecs qui vont faire avant on avait les électroniciens, il y a quand même une espèce de Fab Lab manager, donc quelqu'un qui est un peu polyvalent, qui sait un peu tout faire. Et là, on pourrait imaginer des infolab managers, des gens qui pourraient à la fois parler aux gens, pas que d'être derrière des écrans, pouvoir manipuler des données, pouvoir les mettre en forme. Un petit truc, alors je ne sais pas comment ça marche, une université, une petite convention complémentaire avec, je ne sais pas. Mais j'aimerais bien, moi, ça, en tout cas, je suis en attente de ça. Et par exemple, mes collègues sur Lyon, d'ailleurs, je vous invite tous demain au CRIJ, après-midi, à venir faire l'infolab sur la donnée sur la quantité de soi. En français, j'arrive pas à le dire. Quantified self. Voilà. Et donc là, en fait, il y a il y a des étudiants, designers de services qui viennent et ils arrivent comme ça. C'est fabuleux, en fait, à faire des choses fabuleuses avec des tableaux. Et je trouve que chez nous, on n'a pas ça. On a des super développeurs. On a des tas de gens qui savent faire des tas de trucs, mais ce petit truc un peu polyvalent, voilà, moi je trouve que ça manque. Bref. C'est pas le même métier, ouais.
Je sais qu'à Niort, ils étaient très très ouverts quand on en avait parlé, et que soit dans l'équipe professorale, il y a des gens qui sont disponibles parce qu'ils font déjà le travail avec des électriques, enfin, ils se mettent au service d'une série de gens dans un côté militant en plus que dans un côté pro. Mais il peut y avoir aussi un travail avec un étudiant sur un stage qui fasse que le gars sorte de ça.
Je vais répondre à Siegfried, mais avec le micro, ça fait un peu bizarre, mais bon, voilà. Non, juste rebonjour, j'avais déjà pris la parole tout à l'heure. Non, juste en fait, petit complément.
Est-ce que vous pouvez juste vous présenter, parce qu'en fait, oui, on ne connaît pas très nombreux, juste quand vous intervenez. Tout le monde ne se connaît pas, ça permet juste de savoir comment qui vous êtes.
Voilà. J'ai le micro, donc moi, Martin Druon, en fait, justement, moi, je suis passé par l'université. Où j'ai fait mes études là-bas pendant quelques temps, donc c'est pour ça que je voudrais apporter un petit complément de réponse. Et aujourd'hui, depuis un an et demi, j'ai créé ma start-up et je développe des applications mobiles autour de la thématique des smart cities. D'où ma présence ici, hein, c'est un sujet qui m'intéresse. Juste pour répondre, donc, au niveau de l'université, petite précision aussi, il y a au niveau du Futuroscope deux laboratoires, notamment un spécialisé dans le traitement de la donnée, donc tout ce qui est base de données, donc les moteurs, ce qu'on appelle d'ontologie. Donc c'est être capable de faire des associations, sans rentrer dans les détails, mais au niveau des mots, pour des mots-clés, etc. Mais il y a aussi tout un tas de choses beaucoup plus complexes, donc la fouille de données, etc. Eux, ils ont une expertise dans la base de données. Premier labo, et deuxième labo, très bon labo, qui forme des très bons étudiants, et ensuite des très bons professionnels. Notre laboratoire orienté vraiment plus informatique, traitement d'images, et notamment reconstruction 3D et télécommunications.
Les deux conférences notamment avec ces labos-là, XLIM, Université
et
de CNRS.
Mon point de vue qui est là purement personnel, mais c'est vrai que je trouve que dans ce genre de réunion, alors c'est pas. Voilà, c'est, l'université n'est pas toujours présente. Pour être passé là-bas. Je ne parle pas forcément sur ce genre de choses, mais avec Siegfried, c'est vrai qu'il y a des choses intéressantes qui se passent localement et c'est vrai qu'on a envie de raccrocher avec ce qui se fait d'un point de vue universitaire parce que. Il y a des choses vraiment très très poussées et on aimerait qu'ils soient plus souvent là. Le problème pour y être passé, c'est qu'en France, on a quand même, je trouve, ce décalage entre le côté purement recherche à l'université et le côté un peu production des outils. C'est quand même très délicat aujourd'hui de que l'université porte des projets qui sont derrière commercialisés ou voilà, d'un point de vue, enfin au moins utilisés, parce que c'est pas leur vocation première et on les aide pas non plus à aller dans cette optique-là. Contrairement à d'autres pays où ça se fait plus naturellement, notamment le système anglo-saxon. Donc c'est vrai que c'est moi encore une fois sans vouloir, je suis passé par là et quand je vois toutes les ressources qu'il y a encore aujourd'hui, je me dis qu'on pourrait faire des choses vraiment très très intéressantes. Et le problème c'est ça, c'est qu'à un moment ils sont parce que eux ils ont leurs obligations de recherche et de voilà c'est
oui. Voilà. Bon, ils n'hésitent pas non plus à faire de la médiation pour le coup, c'est ce qu'on a vu hier. Parce qu'il y en a eu deux conférences très bonnes, il n'y a pas beaucoup de monde, mais autour de la 3D et autour des questions de sécurité au sens large. C'est pas seulement
mais c'est sur ce côté production, là, ce côté production, il est quand même beaucoup plus délicat. Ouais. Ouais. Oui. Ouais. Ça, c'est français. Ça, je pense.
Juste un
projet.
Chut, dis pas. Tu lui dis bonjour, tu te présentes.
Bonjour, Lisa Harel du Réseau des professionnels du numérique en Poitou-Charentes. Donc, il y a un projet de formation data scientist au sein de l'Université de Poitiers et donc du pôle universitaire Niortais à Niort, et qui est porté, en tout cas qui est impulsé par l'université avec l'agglomération de Niort. Donc voilà, je sais pas, c'est émergent. Et sinon, il y a effectivement l'IUT STID. Et puis la formation de Xavier Escapin qui intervient aussi à l'université de Poitiers, l'IRIAF, l'Institut de risque et
régional, c'est quoi,
des assurantiels, je ne sais plus. Enfin bref, ils font plein de trucs qui peuvent correspondre. Moi, j'ai une question, donc j'ai le micro, fallait pas me le donner. Je représente les entreprises et régulièrement, on m'interpelle sur le fait que les entreprises ne s'emparent pas suffisamment des données qui sont libérées pour en développer des applications ou des services. On en discutait un peu tout à l'heure avec quelques-uns. Il y a un enjeu d'acculturer ou en tout cas d'informer les entreprises sur l'utilisation de la donnée et surtout des usages. Et après, quel rôle aussi peut jouer la collectivité pour impulser, pour inviter les entreprises à s'emparer de ces données-là et en développer des applications qui soient viables aussi pour elles sur le marché. C'est pas une question, mais qu'en est une quand même.
Oui. Mais moi, j'ai eu des échos il n'y a pas si longtemps. Je pense aussi qu'il y a l'aspect technique, mais il y a aussi une réticence légale, etc. J'ai l'impression que les choses ne sont pas claires pour beaucoup de gens sur ce qu'on appelle les licences ouvertes ou des choses comme ça, et que les gens sont assez frileux en fait, pour réutiliser des données qui sont à d'autres, de fait, puisque la paternité est toujours attribuée. On ne peut pas s'approprier des données qui ont été produites par d'autres, donc il faut toujours citer d'où elles viennent. Mais c'est assez confus dans l'esprit de beaucoup de gens. C'est pas seulement sur les données, mais ça concerne les photos et des choses comme ça. Et des licences comme les Creative Commons ou même le domaine public ou des choses comme ça sont assez mal comprises, je crois. Donc j'ai l'impression que dans l'open data, c'est pareil. C'est-à-dire que les gens disent oui, ils sont gentils, ils nous disent qu'on peut les réutiliser, mais est-ce qu'on peut vraiment le faire ?
Mais le problématique, c'est même que le droit d'auteur est mal compris par le grand public, en fait. Enfin, c'est la notion juridique d'appartenance pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas à ça, c'est disponible, je peux le copier, c'est à moi. Et autrement, c'est pas à moi. À peu près. Enfin, je pense que je dis pas de bêtises.
Ouais, c'est que souvent, on met la barrière sur l'aspect technique ou le savoir-faire, de savoir utiliser telle ou telle chose. Mais en fait, il y a souvent cette réticence-là aussi derrière qui n'est pas toujours dite.
Ouais. Juste à l'inverse, il existe aussi l'inverse, c'est-à-dire des entreprises qui sont des très très bonnes réutilisatrices de données publiques. Il y a le GF2I, qui est l'association qui réunit toutes ces entreprises qui, depuis 30 ans, revendent parfois même aux collectivités des données qu'elles ont agglomérées. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a peut-être une question de culture, mais c'est pour dire que ce n'est pas complètement absent non plus chez tout le monde. Quoi.
Ouais. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, Jean-Michel Pignon, Grand Poitiers. Non, mais c'est vrai que ça revient à la première question qui avait été posée. C'est quoi le modèle économique de l'open data ? Et on a, nous, collectivités, on a vraiment beaucoup de difficultés à répondre à cette question. Bernard Kessler évoquait la difficulté juridique les collectivités qui, en dehors de la consultation au marché public, peuvent pas vraiment coproduire quoi que ce soit au sens strict avec les entreprises. Alors la question, c'est comment on fait ensemble pour produire de la valeur autour de l'open data.
Peut-être que valoriser les usages aussi, ça peut être un élément de réponse qui peut être incitatif pour que les entreprises... Il y a la question de l'acculturation, de la médiation, et tu me dis un infolab d'entreprise, je trouve ça top, mais aussi valoriser l'usage pour que l'entreprise puisse identifier le marché et puis après faire son choix aussi d'aller dessus ou pas.
Alors après, en termes de... Enfin, si on prend le côté purement économique et comment et sur quoi payer les gens, moi je vois deux choses. L'un qui est plus sur la cartographie, puis la mise en forme de données, qui est globalement, on a souvent une donnée qui est brute, et il faut bien payer quelqu'un pour l'enrichir, la mettre en forme, etc., etc. Donc ça, c'est une première source de financement où là, par contre, je pense que vous avez peut-être les moyens, si globalement, vous n'avez pas en interne les ressources parce que vous êtes déjà trop chargé, de payer des gens pour mettre en forme les données, etc., les données vertes. C'est avant ou après la mise à disposition. En tout cas, si les données sont ouvertes, retraitées, et qu'elles sont à vous, vous les remettez à disposition dans un meilleur niveau de qualité. Donc pour moi, c'est votre open data à vous. Et puis après, sur la partie plus, on va dire, logicielle, sur la partie plus logiciel libre, quand vous avez parlé tout à l'heure sur les logiciels de gestion d'état civil, je ne sais pas comment ça se passe, mais il n'y a pas d'associations qui peuvent se monter comme peuvent se monter Open Data France pour dire on se met ensemble, et puis on met ensemble au beau commun pour développer quelque chose qui sera par exemple du logiciel libre. Je prône mon... Ah oui, Frédéric Moreau, APP3L, l'association de promotion de l'Unix et du logiciel libre, et entrepreneur numérique. C'est bien, off. Et en fait, effectivement, vous avez... en fait, il y a... Soit vous pouvez vous dire le logiciel n'existe pas, il faut le développer, et puis etc. Et c'est pareil pour les données. Hein, soit vous pouvez vous dire, eh ben, on fait une prestation qui est sur une partie fixe, et le logiciel est déjà disponible, et on récupère les efforts, nos efforts à nous et les efforts des autres qui vont aussi faire la même chose. Ou alors effectivement créer des structures à côté qui seront peut-être que vous pourrez financer différemment, mais qui sont plus libres, elles, de dire on embauche et on refait de zéro. Mais ouais, c'est, enfin, faut vraiment prendre un processus itératif, je pense.
Non, moi, c'était, ouais, enfin, continuer sur la notion du modèle économique. Simplement, parce que bon, forcément, c'est travaillant autour de la donnée, comme je disais, moi, je suis donc développeur, donc je vois la donnée comme un outil. Enfin, derrière, on développe une interface pour justement traiter cette donnée. Et jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'on avait un schéma qui était assez, enfin voilà, qui date d'un certain temps, où on a la donnée qui existait en entreprise, etc., qui était présente, et on nous demandait à nous développeurs de développer une interface pour pouvoir accéder, modifier cette donnée. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'open data, ça part un peu dans tous les sens, et on aurait presque envie, enfin encore une fois, moi, en tant que développeur, de dire bon, ok, maintenant, on va essayer de tout structurer, tout cadrer, tout normaliser, pour derrière pouvoir développer de nouveau des applications, etc. Or, je me rends compte, enfin moi j'ai mon impression, c'est que avec l'open data, la donnée sera sans arrêt en train d'évoluer. Le contenu forcément, mais même la donnée en elle-même sera sans arrêt en train d'évoluer. Et peut-être que du coup, les applications qu'on va développer derrière seront aussi constamment en train d'évoluer. Et donc on n'aura plus de système économique traditionnel où en fait un prestataire paiera sur un cahier des charges défini à l'avance. Mais qu'il faudra se dire, ben peut-être que constamment, on va développer des applications qui feront quelques fonctionnalités beaucoup plus simples qu'avant, mais qui seront sans arrêt soit mises à jour, soit modifiées. Soit, voilà. Et donc, se dire que finalement, est-ce qu'il faut aller vers un système d'uniformisation et d'arriver à faire une application qui traite un grand, alors si on parle d'un point de vue géographique, une grande couverture, avoir une grande couverture territoriale, etc. Ou alors, est-ce qu'il faut localement plus encourager des petites initiatives qui ont une durée de vie qui peut être plus restreinte, mais qui vont être adaptées à une donnée qui, de toute façon, on sait que dans 5 ans, la donnée aura changé, donc on va adapter le logiciel, etc. Donc, je pense que le modèle économique de l'open data, pour moi, la question, c'est est-ce qu'il existe déjà et est-ce que... Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des éléments de réponse ou... Voilà, c'est, je pense, une vraie question, mais en tant que professionnel, c'est vrai qu'on se pose vraiment des questions derrière.
Voilà, là, la question que tu poses, c'est effectivement, c'est la structuration des données, en fait. Et c'est très difficile parce que nous, on le voit déjà au niveau des données géographiques. On essaye au niveau national de normaliser. On a parlé de la Banou, c'est un exemple. Hein. C'est-à-dire, on normalise l'adresse d'une façon. Et effectivement, tu vas retrouver toujours de la même façon. Mais aujourd'hui, au niveau national, c'est très compliqué. On a pas mal de données qui se structurent, surtout des données géographiques. Mais c'est un sujet qui est vraiment en discussion avec Open Data France là-dessus. Où justement, l'idée, c'est au moins sur un socle commun de ce nombre de données, se dire comment on fait pour les normaliser, pour éviter, pour ceux qui travaillent sur une échelle plus grosse que notre territoire, j'allais dire, qui vivent même sur toute la France, si vous prenez, l'exemple des données par an budgétaires, vous allez avoir X structuration de ces données budgétaires au final. Donc effectivement, pour vous, c'est compliqué. Et effectivement, elles peuvent aussi, vous n'êtes pas garanti que demain, tel champ, ça soit plus celui-ci, ou il est normalisé d'une autre façon, typé d'une autre façon, etc. Et ça, il y a quand même une demande, en tout cas, forte nationale sur ça, sur une normalisation, qui va être très compliquée. Enfin, ça va être difficile, franchement très difficile, mais elle peut peut-être s'envisager sur un certain nombre de jeux de données, mais sur l'ensemble de l'open data, ça va être très très compliqué.
Mais c'est important aussi, cette histoire de normalisation, de garder l'idée que les données de l'open data doivent être brutes, du texte, en fait, très basiques, etc., avec des structures ouvertes, connues, etc. Parce que le pendant, enfin, je vous invite, on en parlait tout à l'heure avec Amandine, à lire, aller sur Internet Actu, donc le site web documentaire, pour le coup, des articles de la FING, et où il y a de nombreux articles récents là, développés autour des algorithmes. Parce que le pendant, c'est quoi ? C'est que c'est peut-être pas la peine de s'embêter à faire des données basiques, structurées, etc. Mais les algorithmes vont les retrouver en tapant dans le tas pour nous. Et là, on sait bien que derrière l'algorithme, il y a une logique, il y a une qui est tout à fait humaine, quoi. Et c'est des choix, c'est des choses comme ça. Donc je pense que c'est très important de garder l'esprit, la base de l'open data, qui est la donnée brute. Et après, on fait les traitements qu'on a à faire dessus. Mais ne pas se dire que ces données-là, elles vont être produites par des traitements automatisés. Même si ça peut être le cas aussi. Mais voilà, il y a quand même tout un jeu aujourd'hui entre les données d'un côté et les algorithmes de l'autre qui est compliqué. Enfin, c'est un avis personnel pour le coup, mais... Je crois qu'il y a un enjeu autour de ça aujourd'hui.
Compléter justement pour avoir vu la naissance et la mort d'un certain nombre d'applications, entre autres liées au concours d'applications de Rennes et d'autres villes. Je pense qu'il n'y a pas de modèle clé lié à l'open data. D'ailleurs, il n'y a pas de modèle directement lié à l'open data, puisque très vite, les entreprises, en fait, les retraitent. Et donc, à partir de ce moment-là, ce n'est plus des données publiques, c'est des données qui leur appartiennent, parce qu'il y a retraitement derrière. Donc, déjà, ça change le statut. Et très peu, quand même, il faut le dire, aujourd'hui, très peu remettent au pot commun. Et celles qui le font, elles le disent très haut et très fort parce que c'est une vertu qui est assez peu répandue, quoi. Du coup, je pense que la problématique, c'est moins celle de la réutilisation des données en elles-mêmes que la viabilisation de services au public, parce que là, on sort du champ du service public à strictement parler. On va vers une sorte d'intermédiaire mixte avec des systèmes économiques très hybrides. Qui incorpore un peu de public, un peu de privé, un petit peu d'associatif, en tout cas de participation, de collaboratif, et que tout ça, c'est en grande transformation, et qu'aujourd'hui, on a même, les GAFA fondent leur modèle économique sur la production de données par les foules, et qu'aujourd'hui, ça se fait sans contrepartie, même financière, donc... Alors, ça n'a peut-être pas duré, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est le cas. Donc, mais je pense que tout ça, ça va petit à petit se réguler. Quelque part, on pourrait se dire que la production par les foules, eh ben, ça peut être d'une certaine manière taxée. En tout cas, on peut peut-être taxer cette production de valeur-là pour essayer de la redistribuer autrement. Enfin, et donc, quelque part, ça va permettre aussi peut-être de rendre plus simple le bénévolat et de pouvoir financer autrement des formes de participation à des services qui, sans cette participation, ne trouveraient pas de toute façon... C'est pour dire qu'à mon avis, il faut vraiment avancer à à chaque pas, en prenant le temps de voir ce qui émerge et puis essayer d'accompagner au mieux. Mais quand vous faites des appels à projets, quand vous vous financez déjà, c'est déjà des impulsions. Quoi. Après, souvent, c'est moins l'impulsion qui est problématique que la pérennité
c'est,
après. Mais,
c'est, une fois que c'est fait, tout le monde a joué le jeu, participé au concours, on l'a sorti l'application, puis après...
Et après, on passe...
On veut la dupliquer ailleurs, et là, on se retrouve confronté à ces sortes de structuration de données différentes. Et là, la société, il faut qu'elle refasse effectivement... qu'elle refasse effectivement une partie de son programme, en tout cas. Donc ça, c'est quand même relativement compliqué. Donc effectivement, après, on est coincé, nous, par nos systèmes, on en a parlé tout à l'heure, juridiques aussi, de soutien. Alors ça évoluera peut-être, parce que c'est vrai que la loi sur le numérique est un peu floue sur ces aspects-là. Bon, est-ce que ça va s'ouvrir un peu plus faut à mon avis encore attendre. Mais c'est vrai que nos marchés publics nous freinent quand même sur cette partie-là et c'est pas simple quoi, à mettre en place en tout cas.
Du coup, j'avais deux réflexions là-dessus. C'est, alors effectivement, premièrement, je pense que les usages de la rémunération, les usages du temps passé à faire des choses ont déjà évolué et j'espère qu'elles suivront au niveau pécunier parce qu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. D'amour peut-être, mais d'eau fraîche, c'est pas suffisant. Et au-delà, effectivement, actuellement, je pense que les gens qui ont la chance de pouvoir faire du bénévolat et qui ont le temps, c'est que déjà ils sont passionnés et puis qu'après ils ont quelque chose à côté qui les rémunère. Moi, je sais que je suis entrepreneur tout seul, je suis mon propre patron et c'est bien pour ça que je peux consacrer et parce que j'ai des clients qui payent à côté, pas sur les mêmes problématiques, que je peux consacrer du temps. À l'associatif et puis à l'open data. Et donc ça, c'était pour la partie effectivement plus rémunération, on va dire, des gens qui travaillent. Et puis sur les données, en fait, j'avais une réflexion en fait qui était sur le covoiturage. Si on imagine que le covoiturage, c'est un ensemble de données ouvertes, c'est-à-dire un ensemble de gens qui vont d'un point A à un point B, ça c'est une donnée factuelle qui pourrait être ouverte, par exemple au Canada c'est le cas, c'est-à-dire que c'est une donnée qui est partagée entre tous les systèmes de covoiturage et toutes les villes. Il y a un système, pas étatique, mais un système fédératif là-dessus. Et ça c'est une contribution, c'est la contribution de tout le monde et c'est globalement gratuit si on veut s'y connecter et l'exploiter, modulo, les coûts de l'infrastructure pour le mettre à disposition. Mais c'est, quand on parle à grande échelle, c'est assez négligeable. Et par contre, le moyen de se rémunérer n'est pas sur la donnée. Il est sur l'exploitation de la donnée et sur le fait de faire payer les gens qui ont besoin de cette donnée, en fait, le fait de rendre gratuit aux producteurs, entre guillemets, c'est-à-dire les gens qui proposent un covoiturage, et de faire payer les gens qui ont besoin de la donnée, c'est-à-dire les gens qui demandent un covoiturage. Et je pense que là, on est sur une articulation, effectivement, où l'utilisateur n'est pas vu de la même façon. Et autant, effectivement, quelqu'un qui produit la donnée, lui faire payer pour avoir cette même donnée-là, c'est normal, on ne pourra pas. De toute façon, autrement, il arrête. Par contre, effectivement, on peut peut-être faire payer un peu le grand public sur les applications... qui sont vraiment, quand on est vraiment client, mais il faut qu'il y ait une application à forte valeur ajoutée et que ça soit vers un modèle de mobilité ou vers une mutation de la mobilité, quelque chose qui agrège, quelque chose qui va prendre plein de données. Mais voilà, je pense que les usagers ne sont pas les mêmes, on ne peut pas les faire payer de la même façon. Et puis après, en bout de chaîne, effectivement, il faut payer les gens qui travaillent, on va dire, soit à la donnée, soit à l'élaboration de données, soit à l'amélioration de données, soit au développement des outils, je pense qu'il va falloir migrer plus sur un système où on dit, on fait une petite base commune, et là peut-être qu'il faut se tourner vers vers Etalab, qui peut avoir des bourses, qui peut subventionner des choses, ou vers Open Data France, qui peut-être mettre le pied à l'étrier pour avoir un premier outil, et après passer sur un modèle de maintenance, c'est-à-dire que chaque collectivité dit, l'outil nous intéresse, et nous, on va l'utiliser en interne et on va le mettre à disposition des usagers et du grand public. Et donc, on peut peut-être payer une maintenance qui va payer les personnes pour corriger les bugs, bien sûr, faire évoluer en fonction des données, etc., etc.
Avant, la question de l'outil, c'est des enjeux politiques. C'est-à-dire, qu'est-ce que le politique décide de mettre dans le champ public ou pas, quoi, et comment est-ce qu'il contraint ça, quoi. Et par ailleurs, Blablacar et les autres, ils ont aussi tout un marché économique sur la revente des données prédictives qu'ils peuvent produire à partir des données collectées. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas voilà, qui n'est pas taxé. Et on pourrait se dire que ça appartient à tout le monde aussi. Enfin, je sais que je pousse un peu le trait, mais bon. Voilà.
Moi, il me semble que quand on regarde le marché ou l'éco, enfin le système économique des applis, il y en a grosso modo un peu, il y a deux niveaux. Il y a toute une série de gens qui ont des applis gratuites et qui vont se rémunérer sur de la pub qui va avec. Il n'y a pas que les gens qui traitent de la donnée. Il y a plein de services Internet qui fonctionnent comme ça. Et il y a des gens qui vont publier de la donnée gratuite, mais qui font d'autres traitements après, qui font payer à EDF, toute une série de gens qui vont exploiter les données et qui vont avoir besoin de traitements plus élaborés et qui, pour eux, sont des enjeux de production ou des enjeux de commerce ou des enjeux, enfin bref, divers et variés. Ce que vous êtes en train de proposer, c'est en fait un troisième système, enfin, modèle économique qui serait d'avoir du gratuit, mais accompagné ou cofinancé par les collectivités parce qu'elles auraient repéré autour de leur service public la nécessité d'accompagner et de proposer, par exemple, Handimap, ça me semblait être un bon exemple, mais ça peut être aussi d'accompagner certains publics précaires, ça peut être d'accompagner à certaines heures de la journée, etc. Donc on pourrait dire, ce qui me semble, c'est que les modèles économiques des applis sont rarement des modèles immédiats, c'est-à-dire la valorisation immédiate de la donnée. Ce qu'il faudrait, et c'est, me semble, ce qui rend compliqué l'analyse au niveau de l'État de ce que peut être le modèle économique de ces applications. Parce qu'ils ont tous la conscience que là-dedans, le modèle économique, ce n'est pas la valorisation immédiate de la donnée, mais toute une série de valorisations indirectes, soit par la pub, soit par d'autres partenaires, etc. Ce qui me semble très, très complexe aujourd'hui dans l'économie numérique. Parce qu'on est dans une économie, et ce n'est pas seulement le cas encore une fois pour l'open data ou pour la valorisation des données ou big data, c'est qu'on est dans un système de sous-traitance en chaîne avec des gens qui ont des modèles de valorisation du code ou des algorithmes qui sont divers et variés. Pour avoir des copains qui travaillent avec différentes boîtes informatiques, quelquefois on s'arrache les cheveux pour comprendre exactement ce qui se passe. Quoi, hein. Aujourd'hui, par exemple, j'ai posé la question à une copine qui s'intéressait à Page Jaune. Elle me dit « Ah, ça existe encore, Page Jaune, mais ça sert à quoi ?» Elle avait fait... Elle avait travaillé sur le code il y a 5-6 ans, et puis elle disait, mais aujourd'hui, il y a plein de gens qui font beaucoup mieux et autre chose, etc. Et pourtant, elle travaillait dans la boîte qui avait des... Donc, on n'est pas dans une économie qui fonctionne comme on avait l'habitude de le voir avec la production de voitures, c'est-à-dire j'achète du métal, je le mets, je l'imprime, je le mets en forme, j'ai des presses, et derrière, je sors de la voiture grâce à un moteur et grâce à de l'essence. On est dans une économie qui est beaucoup plus complexe et dont il me semble que les modèles économiques sont très hétérogènes. Voilà. Donc c'est compliqué, me semble-t-il, y compris au terme des marchés publics, d'avoir un raisonnement simple sur cette économie-là, parce que, y compris au niveau de l'Europe, on a toujours des interactions entre des groupes de pression qui disent « je veux ça ou je veux pas ça enfin, ». Voilà.
Ouais, du coup, sur le, alors j'ai un point de vue un peu radical sur le financement par la pub. Pour moi, quelqu'un qui se repose sur la pub pour se financer, c'est qu'il n'a pas de modèle économique. Mais bon, c'est qu'il n'a pas réussi à trouver un modèle économique. Donc ce n'est pas un modèle économique, mais c'est mon point de vue. Après, je le partage, et c'est pas mal. Ah oui, c'est le modèle Google, mais c'est voilà, il n'y a pas de souci. Le modèle Google, c'est qu'il ne se paye pas sur la pub, il se paye sur l'exploitation des données derrière. Et du coup... Oui, bien sûr. Mais c'est aussi que c'est la plus grosse régie de pub du monde, donc 90% forcément. Il a les côtés des intermédiaires, il est debout. Et après, il y a deux sortes d'entreprises qui exploitent de la donnée. Il y a ceux qui exploitent de la donnée et qui la gardent captive. BlaBlaCar fait ça, par exemple, c'est-à-dire que la donnée qu'il recueille et qu'il exploite, c'est-à-dire les covoiturages qui sont disponibles, il les garde en interne. Donc là, on arrive à des marchés de silos, à des marchés qui peuvent être hégémoniques, et puis il y a des problèmes de monopole parfois quand l'application marche trop bien parce que voilà, elle marchait bien à l'origine parce qu'elle est bonne, hein, et pas de souci, mais par contre derrière voilà. Et il y a d'autres sociétés, par exemple il y a Mapillary qui est une société finlandaise, suédoise, je sais plus, qui va faire du Google Street Map collaboratif, contributif, etc. Donc il recueille des données, des photos que les gens font avec les positions GPS, et puis ces photos là il les traite. Il les traite pour en extraire les panneaux. Il les traite, bien sûr, pour enlever les plaques d'immatriculation, pour flouter les visages des gens. Mais donc, il les traite, par exemple, pour extraire les panneaux de routiers. Donc, ils ont une base de signes routiers géolocalisés extrêmement fiables, que là, ils peuvent revendre. Donc là, effectivement, ils font leur beurre avec la donnée. Mais les photos de base, elles sont en CC, BY et SA. Elles sont disponibles gratuitement pour tout le monde. C'est-à-dire qu'ils prennent la donnée, ils l'améliorent, et puis ils la redonnent. Et ça, je trouve ça vachement plus vertueux que dire ils mangent avec les... Avec les panneaux routiers, ils mangent avec leur expertise en manipulation d'image, etc.
Non. Ok. D'autres réflexions? Amandine, Jean-Daniel, Séverine. On va clore à 30 et puis tu feras une présentation des ateliers en rappelant le programme, des choses qui étaient dans la... des temps qui sont dans la continuité de l'appel à participation.
En tout cas, enfin, juste peut-être un mot pour terminer sur ces histoires de modèles économiques. Je pense que la meilleure manière dont on pourra anticiper ou faire face aux questions, c'est de continuer à garder la dynamique qu'on a avec les acteurs privés, voilà, pour bien comprendre les enjeux de chacun, quoi. Et donc,
oui, donc pour parler, par exemple, jeudi soir.
Voilà, météo. Jeudi soir, voilà.
Non, météo. Super à 21h.
Parce que c'est vrai que je pense qu'on a vraiment besoin de cette diversité de points de vue pour pouvoir résoudre voilà, les problèmes qui se présenteront, quoi.
Ouais. Là, c'est quand même effectivement un atout aujourd'hui pour Poitiers, parce que Rennes, ils n'ont pas cette base-là. Ouais, tu vois. Mais effectivement, faut le maintenir et ça se fait pas tout seul non plus, quoi. Hein, d'accord.
Moi, je voulais peut-être poser une question qui nous intéresse, nous particulièrement à l'espace Mendès France, la question de la médiation. Ça a été un peu abordé, j'ai pas pu tout suivre tout à l'heure, mais ça a été un peu abordé par les gens de Rennes qui disaient qu'apparemment, c'était pas un domaine où ils avaient été très très forts. On est en train de réfléchir, nous, un peu sur un certain nombre d'éléments autour de, justement, alors vous parliez tout à l'heure de culture de la donnée, mais je pense qu'il n'y a pas que la culture de la donnée, il y a la culture de son stockage, éventuellement, et de sa qualité au départ, de sa collecte. La question, c'est quelque chose sur lequel
c'est
on...
C'est englobé dedans, hein. Non, mais ce que vous dites.
J'entends ouais. bien. Moi, ce que j'ai entendu parler sur des éléments qui... Ce n'est pas de la donnée aussi brute que ça, mais sur de la donnée texte, de la donnée son par rapport à des balades sonores ou des choses comme ça. Je me demande, moi, quel est le... Est-ce qu'à la FING, par exemple, on a repéré des gens qui s'étaient engagés dans l'accompagnement aussi bien de ceux qui récoltaient de la donnée que ceux qui la valorisaient? Est-ce que sur ces éléments d'information, de médiation, etc., est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être... moi, ça m'intéresse directement, là. Est-ce qu'on a repéré des expériences particulièrement chaudes, chaleureuses, sur cette... tout à l'heure, on posait la question sur le... pour accompagner les infolabs, mais sur... voilà, cette dureté, on parlait de sécheresse de la donnée, des gens qui réchauffent la donnée, si je puis dire.
Oui. Oui, oui, en fait, je dirais même notre principale activité, elle consiste à ça, à identifier les gens qui font des choses. Enfin, dans le cadre d'Infolab, elle consiste à ça, à identifier les gens qui font déjà des choses. Donc, en 2014, on a, à Futur en Scène, eu un espace de 200 mètres carrés. On a présenté tous les acteurs qu'on avait identifiés, ils étaient une trentaine. Ça va de l'ANACT, l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, à l'espace scientifique et technique de Paris. Enfin, voilà, c'est des acteurs extrêmement différents. Sur l'exemple que vous donniez sur les sons ou les images, il y a la Fonderie, donc qui est l'agence numérique régionale d'Île-de-France, et Loïc Haï, qui a par exemple travaillé sur des photos, la reconstitution de photos, enfin la manipulation de photos anciennes, et en la superposant au...
Je parlais de médiation, moi.
Oui,
des problèmes publics.
Exactement, voilà, c'est ça. Donc c'est à travers ces ateliers-là, il fait pointer du doigt aux participants les problématiques de droits d'auteur, et puis après aussi tous les problèmes techniques liés à la manipulation de données, quoi. À chaque fois, en fait, nous, sous cet angle Infolab, on essaye de penser les formes de médiation, quoi. Justement, comment on aborde... c'est vrai, l'identification des jeux de données, leur nettoyage, leur croisement, leur visualisation, leur, les problématiques, elles sont très vastes d'ailleurs. Mais
spécifiquement, parce que là, Pierre parlait plus particulièrement aussi des données culturelles, donc qui ont un statut
un peu
à part. Mais
plus difficile,
il y a
encore
le projet qui est très méconnu, mais qui est vraiment impressionnant, qui s'appelle Europeana, hein, qui regroupe vraiment des institutions, des bibliothèques et des institutions muséales au niveau européen. Et qui avait mis en avant, alors ça doit être toujours accessible, tout un fonds, enfin des milliers de ressources liées à la guerre 14, évidemment, mais il y a bien d'autres choses. Et avec toute cette problématique-là qui est montrée sur le traitement des images, évidemment, les métadonnées, etc., et évidemment, la disponibilité des API pour y accéder. Tout. Donc, autour de ce projet-là, qui est, comme je le dis encore, très méconnu, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses autour de la donnée culturelle, mais dans une optique de partage de la donnée qui rejoint celle de l'open data, mais qui est décalée quand même.
Mais par ailleurs, nous ne sommes pas, nous, des médiateurs scientifiques et techniques. Hein, c'est vous qui avez le savoir. Ah,
oui, alors pour le coup,
et quelque part, on a besoin de vous. Hein.
Europeana, c'est vraiment dans une optique de médiation.
Parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était aussi les retours d'expérience de ces médiateurs. Parce que, bien évidemment, nous, pour éventuellement construire des ateliers, ce qui est intéressant, ce n'est pas simplement la méthode qu'ils ont eue, mais quels sont les retours des utilisateurs et en quoi il faut éventuellement faire évoluer les médiations. Parce qu'on est au début, là, me semble-t-il, d'une culture numérique et de son partage. Et que la façon dont l'usage est ou n'est pas compris et les blocages. Je me rends compte, par exemple, moi, pour travailler avec des personnes de la famille sur les médiations pour les personnes âgées, on est sur quelque chose que personne ne sait faire aujourd'hui. Enfin, moi, je vois des petits clubs informatiques qui font vraiment du n'importe quoi, hein, avec des gens qui ont des problèmes de vue et des problèmes de taille de police de caractère et des applis derrière qui ne suivent pas du tout, alors qu'on a véritablement la nécessité que les gens puissent y voir clair et puissent avoir accès rapidement à des éléments significatifs dans l'écran. Et ça peut être des banquiers qui ont... Enfin, bref, je passe un peu les détails. Parce que
un banquier qui ne voit pas clair, c'est pas bon.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que moi, je vois des personnes âgées, notamment sur des problématiques de téléphone. Alors, maintenant, on fait des téléphones à gros écran, mais quand il s'agit d'aller sur l'application mail qui va avec, c'est des horreurs absolument infinies. Donc, je passe le détail là-dessus. Mais il me semble que quand on se retrouve avec certains publics, moi j'ai travaillé à Angoulême, pour ne pas la citer, avec un centre d'animation où on avait commencé à faire tout un travail sur la modalité et l'intermodalité. Les gens, la première question qu'ils nous disaient, c'est « nous on ne comprend pas ce que c'est qu'un plan ». Parce que quand on sort dehors, tu me dis « où est le supermarché ?», je te dis « où il est ». Si je te mets la carte devant exactement et où il s'agit de dire où il est le supermarché, sur la carte, je ne sais même pas si tu es le nord, je ne sais même pas si tu es où je suis. Donc, voilà, il y avait toute une série d'éléments par rapport à des choses qui sont aujourd'hui très, très puissantes en termes d'intermodalité et qui permettent à des gens de préparer. Enfin, moi, je m'amuse très bien avec un certain nombre, mais parce que j'ai une formation cartographique absolument essentielle. Mais si je travaille avec un certain nombre de publics qui sont des publics pourtant très intelligents et on s'est rendu compte qu'une toute petite carte au trésor de 2 heures les formait très vite. Par contre, tant que les 2 heures ne sont pas passées, qu'ils n'ont pas fait leur petite carte au trésor, c'est pas du tout la peine de penser numériser leurs déplacements. C'est infaisable et impensable pour eux. Ils en sont à 5.
Mais à Caen, il y avait là, à Caen le mois dernier, il y avait les rencontres de la médiation numérique. Il faut participer à ce genre de rencontres parce que tous les acteurs sont là. Hein. Je ne sais pas si vous y étiez, mais...
Nous, on a un peu de retour à la PP3L, on a un peu de retour parce qu'on a fait une carte au parti en... Enfin, on fait des actions de sensibilisation et puis on a fait une carte au parti début juin. Dans lequel on a eu un bilan très mitigé et où le matin c'était super et l'après-midi catastrophique globalement. Et voilà, donc nous on a des retours, on peut, enfin rapprochez-vous de nous pour déjà vous dire ce qui marche ou ce qui marche pas.
contact@bpp3l.org.
Et puis aussi dans la média, enfin nous aussi on fait de la médiation tous les premiers jeudis du mois puisqu'on accueille des gens qui, enfin on est en train de dire plutôt que de faire du dépannage, il faut les former à ce qu'ils se dépannent eux-mêmes et on se pose ces questions-là, donc on a des pistes, mais enfin de toute façon après c'est compliqué, hein. C'est du temps. Oui, c'est un problème.
Ok. Bon, on va clore. Un dernier mot, Jean-Daniel.
Juste pour aller dans l'aspect de médiation, de culture de la donnée, il y a tout un travail qui est fait en collaboration avec Open Data France, Mellafing, etc., sur justement offrir un certain nombre de documents, dont un notamment sur toutes les possibilités d'action, d'animation autour des infolabs, mais allant, pour tout public, c'est-à-dire du public qui ne connaît rien du tout, à celui qui va être plus expert, et à offrir comme ça des choses un peu crescendo en fonction des compétences qu'il peut y avoir. Donc ça, c'est Armelle, et elle sera là demain. Et je la vois demain matin, justement, pour parler des types d'animations que nous, on commence à mettre en place un peu à Grand Poitiers. Et il y en a toute une série, alors de la chasse, effectivement, au trésor, à des choses... On en fait une, justement, samedi matin, d'adaptation physique, tout simplement, avec des pet shops et des cubes... On retourne en enfance, mais c'est très très bien, ça marche bien.
ça marche bien aussi, et aller à des choses plus numériques pour ceux qui en sont capables, et les accompagner justement dans les usages des différents outils qu'il peut y avoir, parce que c'est vrai que les outils, il y en a beaucoup. Et on l'a vu effectivement avec la carte cartopartie, bah, le matin, la balade cartographique avec l'application smartphone de basique, ça, sans problème. Les gens appuient sur le bouton, hein, c'est du presse-bouton. L'après-midi, quand vous venez et que vous commencez à aller dans OpenStreetMap pour aller traiter les données, là, vous êtes vraiment dans le monde du SIG, c'est ce que je disais. C'est notre métier à nous, Benoît, derrière, tous les jours. Et effectivement, là on a perdu les gens, quoi. Là, ils sont partis ou on est resté, et on est resté quelques-uns à essayer de voir comment ça allait se passer. Parce que là, effectivement, ça demande des compétences. On s'est bien foiré aussi dans le terme. Oui, comment l'amener peut-être, mais c'est vrai que du coup, c'était trop complexe, en tout cas, pour le public, parce que tu rentres vraiment dans de la technique, ça demande des compétences, effectivement, de métiers en cartographie, etc. On avait quelques-uns, mais parce que c'est d'autres métiers aujourd'hui. Mais après, mais on peut accompagner sur des petites choses. Il y a des outils simples. Enfin, on le sait tous, mais il faut accompagner tout ça. Il faut l'organiser, en tout cas.
Ok.
Et on est plein d'acteurs. Je pense qu'on a quoi organiser là tous ensemble.
Amandine, tu veux dire un mot? Non.
Jean-Daniel. Pas le mot de la fin, mais je crois que c'est un des points en tant qu'élu, en tout cas. Par rapport à la population, qui me semble le plus important, cette question de culture numérique. Je dirais comme pour toutes les autres cultures, en musique, en peinture, on sait comment écœurer les gens et qu'ils ne retournent pas. Il ne faut pas faire la même chose dans le numérique. Je ne sais pas si c'est le mot de la fin, mais en tout cas, je crois que c'est un point qu'il faut qu'on ait bien en tête.
Ok, merci. Séverine, donc tu nous fais le...
Je vous dis un petit peu ce
qui... Le programme des ateliers à venir, et puis après...
Donc effectivement, on avait lancé donc un appel à participation auprès des différents acteurs, donc il y a eu quand même beaucoup, pas mal de retours, hein. Donc ils ont tous été retenus d'ailleurs, hein, vous êtes tous casés dans le programme, il n'y a pas de problème. Donc demain après-midi, il y a plusieurs choses qui se passent, il y a notamment au CRIJ avec donc le CRIJ Poitou-Charentes, CRIJ Rhône-Alpes et puis Poitiers Numérique, donc deux infolabs à 14h, donc de 14h à 15h30, l'infolab participait à une fouille de données, donc 1h30, et puis ensuite à 16h, de 16h à 18h, donc un infolab, tout à l'heure Sylvie en a parlé, découvrir le monde des données personnelles et la mesure de soi, donc ça c'est plus le CRIJ hein, Rhône-Alpes qui va animer. Hein. Et puis, alors en même temps, il y a la concurrence. Il y a PP3L, 14h à 16h, à l'EMF, la découverte des cartes. Donc, ensuite, on passera donc à vendredi. Donc, vendredi matin, Grand Poitiers donc, propose un atelier sur la médiation numérique, notamment avec le retour, Jean-Michel, qui est là, va faire un retour sur l'enquête, déjà. Hein, mais après, c'est une table ronde. Hein. Où il y aura effectivement plusieurs intervenants, notamment des maisons de quartier. Et puis tu as un intervenant aussi supplémentaire.
Gérald Delbaz.
Voilà, donc ça sera donc de 10h à midi. Ensuite, pendant la pause déjeuner, vous pouvez venir avec votre sandwich, c'est autorisé, non ? Cuisine non numérique, avec PP3L. Hein, c'est le but du jeu. Hein. L'idée des sandwichs concert, là, c'est sandwich numérique. Hein. Donc, j'y serai, hein. J'y viens. Et tu poursuis également l'après-midi, de 15h à 17h, les cartes sous vos pieds à l'EMF. Et puis ensuite, en soirée, il y aura le grand rendez-vous, le grand agenda. Culturel de Poitvin, donc de 19h à 21h à l'espace Mendès France. Donc là, 18h, oui, c'est 18h. Oui, c'est vrai que tu m'avais avancé. 18h, 20h. OK. Ça, c'est pour Thierry, en fait. L'heure a changé. le samedi, donc, plusieurs animations. Donc le matin, également, PP3L propose une animation cartographie ensemble. Donc le rendez-vous est à la place d'armes à 10h, de 10h à midi. Et puis ça se poursuivra au CRIJ pour le final. Hein. Ensuite, il y a les petits débrouillards qui donc, proposent, avec un outil tactique, c'est cartographier le patrimoine et créer vos balades. Donc ça sera sur la place du marché de 10h à midi.
Ensuite, en même temps, il y a également proposé par Grand Poitiers, donc j'en parlais tout à l'heure, un atelier de data visualisation. C'est quoi ce machin ? Donc avec des pet shops, des petits cubes, enfin bon, vous allez vous amuser. Venez nombreux. De 10h à midi, donc à l'espace Mendès France. Et puis l'après-midi, donc il y avait normalement il y avait deux animations proposées par Grand Poitiers. Finalement, il va y en avoir qu'une. Enfin, avec le conseil en développement et puis aussi à PP3L. Ça sera la carte partie Je like mon quartier à Saint-Éloi, à la maison de quartier Sèvres, de 14h à 16h. Par contre, c'est annulé pour ceux qui avaient éventuellement prévu, parce qu'il n'y a quasiment pas d'inscrits, donc du coup, on annule. Sur le quartier des Couronneries, il y avait une exploration numérico-ludique, se simplifier la ville. Voilà.
Okay, donc je
voilà le programme, et merci. Tu vas compléter par le reste du programme.
En rappelant que la conférence de ce soir, Transmettre pour innover, donc de Régis Debray, est annulée. Demain matin, on a une session importante avec donc la mise en données du Monde, avec une première conférence avec Pierre Mouniécune sur l'histoire de l'informatique, 70 ans de technologie numérique, travail, représentation, pouvoir, et ensuite une table ronde sur la thématique réinventer les communs avec le numérique, avec David Pucheux, Jean-François, donc David Pucheux de l'Université de Bordeaux, Jean-François Cerisier donc de l'Université de Poitiers, Pascal Plantard de l'Université de Rennes, dont vous avez une interview dans le 7 à Poitiers courant, et à distance Pascal Luciani Boyer, donc, qui est élu local. Voilà. Animé par Jean-François. Donc les ateliers l'après-midi, vendredi matin, donc tu en as parlé, une session autour des acteurs de la médiation numérique de Grand Poitiers avec une introduction par Patrick Tréguer qui est là-bas. L'après-midi, une table ronde autour de la créativité, le numérique et la créativité dans les territoires, qui est organisée par le pôle de créativité territoire de l'espace Mendès France, avec Lisa Harel qui était là tout à l'heure, Bernard Mercadet, Alberto Romale et François Delisle. Une session aussi autour des ateliers, des réseaux sociaux, ateliers écriture et réseaux sociaux. Patrick, tu pourras peut-être en dire un mot. En soirée, les ateliers toujours Grand Poitiers Open Data. Et en soirée, une projection au Dietrich. Donc, on a un partenariat régulier avec le Dietrich, donc du film Ex Machina, autour de la question de l'intelligence artificielle et des déboires qu'on peut avoir avec les machines. Ensuite, samedi après-midi, une présentation du projet Do Not Track. Là aussi, Patrick peut en dire un mot autour de la question du traçage. Donc, c'est un projet qui a été mené par Arte en mars-avril. Et dimanche après-midi, une projection du film Une contre-histoire de l'Internet et un débat avec Laurent Bloch, donc, qui est un informaticien. Qui a suivi toute l'histoire de l'informatique, et dans l'après-midi aussi un atelier autour de l'imprimante 3D, donc qui sera animé par les animateurs de Mendès France. Patrick, tu veux dire un mot sur les deux points ?
Un croisement d'approches culturelles, plus particulièrement sur la littérature. Ça sera autour d'un texte qui s'appelle Matin Brun, un peu d'actualité pour faire réfléchir sur les questions d'environnement à la fois politique et de ce qui se passe dans l'actualité. Et donc, c'est travailler sur le traitement en utilisant les réseaux sociaux, c'est-à-dire l'approche littérature et réseaux sociaux. C'est un travail sur lequel de collaboration avec Hors Normes, qui est réalisé depuis 3 ans maintenant. Ils ont fait ça autour de pièces de théâtre. Et c'est assez intéressant parce que vraiment, ça nous emmène sur cette question du rapport écriture et mise en réseau par rapport à des textes littéraires. Donc, Hors Normes, on les reçoit régulièrement parce qu'on trouve que c'est un travail de croisement entre la culture et la culture numérique plutôt intéressant et qui peut ouvrir aussi en direction des médiathèques, des bibliothèques par rapport à ces outils. Et en ce qui concerne, c'est vendredi après-midi. Pour Do Not Track, donc ça c'est une expérience également qui a retenu notre attention parce que ça parle vraiment de la trace sur Internet, un domaine, donc le tracking hein, pour parler français, et l'utilisation de nos données par les multinationales pour tracer à la fois nos déplacements, mais surtout tracer nos comportements. et qui nous font parler aussi de la question de l'algorithme. Et donc là, le web documentaire qui a été diffusé sur Arte au mois de mars et avril, c'est quelque chose que, par exemple, on utilise aussi régulièrement pour présenter à des ados, à des lycéens, pour leur faire connaître le traitement des données et les perspectives déjà existantes et celles qui ne manqueront pas d'exister dans les années qui viennent et qui peuvent parfois être anxiogènes. Mais l'intérêt, c'est aussi de donner des antidotes et donc de développer aussi cette culture de la trace et de savoir qu'il existe des outils pour s'en sortir en tant que citoyen, pour faire la culture des cookies, par exemple, qui sont dans nos ordinateurs, et les outils de visualisation en temps réel qui existent et qui sont, en général, qui marquent les esprits et qui sont open source également pour certains, enfin, en tout cas, libres.